Et bientôt 14h05 sur France Inter. On retrouve CO2, mon amour, avec vous, Denis Chessou. Bonjour.
Bonjour, cher Dominique Delarroix. Mais nous, on va parler de chimie, vous voyez. On va parler de chimie avec à la fois un chimiste et puis quelqu'un qui a fait une enquête, Fabrice Nicolino, un empoisonnement universel. Voilà, rien que ça. Donc, on va avoir une heure assez, on va dire, animée et intéressante avec nos deux intervenants. Merci, Dominique.
Alors, 3, 4.
À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes, la radiodiffusion télévision française présente...
Fini les vacances au crottoir.
Ah oui, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, ou ces petites saloperies, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal, il y a avec le zéro sur 3000. Dans ma vigne, il n'y a plus de brindilles. Moi, j'ai fait poser le lino dans la vigne. Pour aller dans la vigne, il faut mettre les patins.
Il a un malaise, le peignoir?
Ça tape là, hein, d'un coup. J'ai me baigner.
Quel malhonnête!
Vous étiez là?
Bah oui.
Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Maxime Ingrand et Ludovic Asselot aujourd'hui à la technique et assisté de Stéphane Combe. C'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Émission qui commence par un petit mélange d'actualité subjective. Sonner au bois, l'écologie est un sport de combat, car pour beaucoup, raisonner musette, l'écologie est une langue étrangère, une langue de bois juste bonne à transformer en énergie. Alors en ce temps-là, la social-finance-démocratie détricotait gentiment ce qui pouvait déranger l'économie. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Ségolène Royal ne donne pas l'autorisation de poursuivre les rejets de Bourrouge, de l'usine de Gardanne, même sous forme liquide en Méditerranée. Oui, nous suivons avec attention donc ce sujet également. C'est le week-end du patrimoine. On peut imaginer la journée du patrimoine en 2114. Oh là, dites donc, c'est quoi ce mur de béton là dans le Tarn? Oh, ça c'est les restes d'un barrage. Il a servi, oui, moins de 30 ans, il a servi à faire travailler le constructeur du barrage qui a fait lui-même l'étude de faisabilité. Ça servait à irriguer le maïs, à faire élire un sénateur qui cherchait les voix des maires, qui était proche du syndicat agricole majoritaire. Oh bah oui, alors qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a arraché les arbres, on a planté un peu de violence. Les lycéens, aux hormones assez vives, criaient « Votre vieux monde, on n'en veut plus !» Ah bah ça, c'est sûr que ça dérangeait les vieux, quoi. Et le maïs, vous voyez bien, on est en 2114, il n'y en a plus depuis très longtemps, il fait trop chaud. Et là, ces grandes bandes noires de deuil avec rien dessus, c'est quoi ça? Ah bah ça, ça fait partie aussi du patrimoine, hein. On appelait ça des autoroutes. Et c'était pour quoi faire? Bah c'était pour aller vite, et aussi racketter les gens chaque année de plus en plus. Mais il y avait quand même moins d'accidents que sur les routes, hein, faut le dire. Leurs enfants ont payé ça toute l'année, toute leur vie. Mais en fait, pourquoi? Ben, je vous l'ai dit, c'était pour aller plus vite. Ah bon? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit des cornes. Ah, très intéressant. Ça, c'est les restes d'une garnison industrielle. On y entassait dans la Somme des centaines de vaches gavées aux antibiotiques qui s'étranglaient le treillon. Avec la bouse, on faisait de l'électricité. Oui, parce qu'à cette période-là, ça servait à ça, une vache, à chier des kilowattheures, mais garantie sans problème pour l'environnement. Et d'ailleurs, faut voir ce qu'en pense le vétérinaire et inventeur de la Noiraude, Jean-Louis Fournier. Bonjour.
Bonjour, Denis. Moi, ce que je crains énormément, c'est les dépressions. C'est le moral. Le moral des vaches va tout d'un coup. Et puis, évidemment, à leur recours à tous les tranquillisants que les humains connaissent, quoi. C'est-à-dire, ils vont devenir aussi paumés que tous les gens qui vont mal. Ça va être des angoisses, ça va être des choses comme ça. Alors, perte d'appétit, cauchemar, perte de sommeil. Enfin.
Et vous avez toujours eu, vous, une affection, on peut le dire, affection pour les vaches, Jean-Louis Fournier?
Si vous voulez, ce mot affection est faible.
Oui. C'est de l'amour.
J'ai un véritable amour des vaches, parce que j'adore leur regard. En plus, je trouve que ce sont des bêtes exceptionnelles qui nous donnent énormément, à nous les hommes. De l'écaille pour nos lunettes, de la peau pour notre serviette, du lait, des yaourts, des choses comme ça, oui. En échange d'un peu d'herbe.
Et là, on propose que le lisier donc devienne des kilowattheures.
Oui, je sais, mais enfin là, je sais pas. Ça m'est difficile de parler ça, parce que j'ai...
J'entends. J'entends.
Voilà. Excusez-moi, pardon.
Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Jean-Louis Fournier, et et à bientôt, et caresse à la vache qui vit, parce qu'on peut le dire, qui vit chez vous.
Je vous remercie infiniment, Denis. Au revoir.
À bientôt. Et à 16h, vous aurez aussi des échos donc, de ce qui se passe dans la Somme avec Antoine Chao dans l'émission Comme un bruit qui court. À présent aussi, on va se tourner du côté de Nantes. Du côté de Nantes. Mais auparavant, pour que notre climat ne se visite pas comme un patrimoine défunt, eh bien, demain, ça va être une offensive internationale, car il en va de notre survie. Oui, réchauffement climatique, global warming, CO2 mon amour, réveil des troupes partout en France avec le général Hulot, fini les vacances. Une grande marche mondiale pour le climat aura lieu dans toutes les grandes villes de la planète. Rassemblement à Paris à 14h, place de la République. Il y aura les tambours, remisez le pantalon garance, optez pour le vert. Ce sera une samba titanesque pour remettre les idées en place à tous les pouvoirs drogués à la croissance perdue. En ce temps-là, le monde se chauffait, roulait, s'électrisait au charbon, au gaz, au pétrole le plus sale à extraire. On galopait. Pourquoi ? Pour galoper. On construisait des murs, certes de plus en plus écologiques, mais on rentrait dedans quand même. Les gens voulaient une métamorphose des énergies, un fleuve, une confluence, une Earth Pride. Alors le vieux monde se fissurait, mais un autre, heureusement, naissait. C'est le cas actuellement. Incertain, impatient, foutraque, généreux, inventif, mais différent. Des centaines de combats s'engageaient sur le front. L'intelligence collective était sans frein ni fin. Une nouvelle solidarité des sangs des jardins partagés, des circuits courts, des travailleurs de la lune, des abeilles, des créateurs, des scientifiques éclairés dont on a besoin. Oui, tout le monde était là. Et souvenez-vous ce que disait Hugo Chavez, si le climat était une banque, il y a bien longtemps qu'on l'aurait sauvé. Alors ce petit tour à Nantes, le voici avec Walter Bouvet qui est le directeur de la rédaction de Terra Echo, donc un mensuel très bien fait mais qui ne va pas forcément très très fort. C'est vrai que c'est la crise aussi un petit peu partout dans la presse, donc ça a été créé en 2004. Donc dites-nous Walter Bouvet ce que l'on peut faire pour aider donc Terra Echo.
Déjà merci Denis de nous donner ce temps d'antenne. Ce qu'on peut dire, d'abord le projet Terra Echo il est intact. Et aujourd'hui, il est même dans une phase de mobilisation qui est inespérée et sur laquelle on espère amener encore davantage de lecteurs. Donc ce qu'on peut faire, la première des choses, c'est s'abonner soi-même, abonner des amis, le faire découvrir, et on a besoin d'abonnements tout de suite. Le compteur tourne assez rapidement et c'est bien, et il faut entretenir la dynamique. La deuxième chose, pour ceux qui le veulent, on a lancé une campagne de financement participatif sur le site Ulule, pour ceux qui le connaissent. Et puis on explique aussi que ceux qui peuvent s'aventurer de façon un peu plus risquée et participer au projet économique peuvent nous contacter s'ils veulent qu'on ait cette discussion pour parler un peu plus sous-sous. On a aussi besoin de ce genre de soutien, même si c'est un petit peu différent. En tout cas, Denis, tout est sur la page d'accueil de terraeco.net, terraeco.net, tout est expliqué et on vous attend, on a vraiment besoin de vous.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Sujet toujours controversé, donc aujourd'hui la chimie dans CO2 Mon Amour avec Stéphane Sarad qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est directeur de recherche au CEA, qui est chef du département de physico-chimie à la direction de l'énergie nucléaire mais qui s'occupe principalement des énergies alternatives. Et puis donc Fabrice Nicolino avec ce nouvel ouvrage aux éditions Les Liens qui Libèrent qui s'appelle Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète. Donc c'est un nouveau petit coup de pied que vous donnez. Fabrice Nicolino, vous avez, alors je rappelle aussi que vous êtes à la fois, vous travaillez pour Charlie Hebdo, vous êtes aussi conseiller éditorial chez Bayard Presse. Vous avez écrit Pesticides, révélations sur un scandale français avec François Veillerette, La faim, la bagnole, le blé et nous. C'était une dénonciation en 2007 des biocarburants. Bidoche, l'industrie de la viande menace sur le monde. Et là, donc, enquête assez fouillée, un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète. L'état d'esprit, qu'est-ce que c'est avant que l'on se flingue complètement, cher Stéphane?
Écoutez, en fait, c'est l'histoire d'une industrie qui est devenue totalement folle, qui est devenue incontrôlable, parce que pendant un siècle, disons, les chercheurs se sont mis au service de l'industrie, parfois de l'État et même de la guerre. Et cette industrie, enfin, les responsables certains responsables de la chimie de synthèse sont restés totalement impunis. Et cette irresponsabilité a conduit l'industrie de proche en proche, de décennie en décennie, à mettre sur le marché des millions et même des dizaines de millions de molécules, de substances chimiques différentes les unes des autres, dont on ne sait à peu près rien. Et quand on sait quelque chose par extraordinaire, on se rend compte que ces molécules sont extrêmement toxiques, dangereuses pour la santé humaine et pour la santé d'ailleurs de tous les organismes vivants. Donc c'est l'histoire d'une dérive, d'une irresponsabilité en chaîne qui conduit, selon moi, à un bilan catastrophique.
Alors on y reviendra bien évidemment, parce que déjà dans ce que vous avez dit, c'est sujet évidemment à débat, donc on y reviendra avec Stéphane Sarrad. C'est pas forcément que vous êtes contre la chimie dans l'absolu, parce que d'abord nous-mêmes nous sommes des êtres de chimie les uns les autres, et sans cette chimie, on ne serait peut-être pas sûrement autour de cette table. Donc on y revient, vous voyez, le débat donc est lancé. Alors vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, franceinter.fr, sur le site de CO2 Mon Amour. Là, allez-y, vos réflexions entre vous, mais aussi on va récupérer, s'il y a du questionnement, on y va aussi. Et puis donc Stéphane Sarrad et Fabrice Nicolino sont mes deux invités. Nous sommes en direct et nous poursuivons ce voyage avec Frank Sinatra.
Making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown, downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go, to where they never close. Ooh, downtown. Listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright.
⁇ 1966, Downtown, c'était Sinatra, ode au centre-ville et à la modernité. Avec Fabrice Nicolino et Stéphane Sarrad, nous parlons de la chimie aujourd'hui à travers cet ouvrage polémique, L'empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète. On le sait, tout est chimie, le début de l'univers. Nous, notre corps humain, totale usine chimique, vous craquez une allumette, c'est-à-dire une larme de phosphore qui recouvre une couche de soufre, hop, c'est parti. Donc remercions évidemment les scientifiques persans du 8e, 9e, 10e siècle, Paracelse, médecin et alchimiste du 15e siècle, Sandivogius, celui-là je ne le connaissais pas, j'ai retrouvé dans votre ouvrage Fabrice Nicolino, qui subodorait à l'entrée du 17e siècle l'existence de l'oxygène, Lavoisier bien sûr, Volta, Gay-Lussac, Faraday et puis mille autres qui ont joué un rôle absolument majeur. On le sait, cette chimie joue un rôle majeur dans notre quotidien. Mais on voit bien qu'il y a quand même eu effectivement quelques dérives, parce que eau, sol, air, aliments, le sang des nouveau-nés, nos habitats, on a 70 millions de molécules qui se baladent, qui se mélangent. Certaines nous soignent, d'autres nous détruisent et on inventera de nouvelles molécules pour soigner celles qui nous tuent. Les polluants d'un côté, les médicaments de l'autre sortent très souvent des mêmes firmes. Alors vous disiez, Fabrice Nicolino, parlons d'abord du côté un tout petit peu historique, sans forcément revenir du côté du 8e ou 9e siècle, mais c'est une industrie, on va dire, qui est née à peu près quand, ça, l'industrie chimique?
L'industrie chimique, si vous voulez, c'était... D'abord, avant, elle n'existait pas. Disons-le sans détour, elle n'existait pas. Elle est née dans des... c'était des start-up, disons, de l'époque. Elle est née au 19e siècle. Mm-hmm. On peut parler de DuPont, qui est la grande transnationale américaine. DuPont, qui existe toujours, créée par un Français. DuPont, c'est une société qui a été créée en 1802, donc aux États-Unis, et qui a fait sa première grande fortune grâce à la guerre de sécession américaine, parce que DuPont a vendu à l'armée américaine du Nord, elle a vendu explosifs et munitions qui ont permis la tenue de cette guerre. En Allemagne, parce que l'Allemagne, évidemment, est le grand géant finalement de la chimie mondiale encore aujourd'hui, vous avez deux entreprises majeures, Bayer d'un côté et BASF de l'autre, qui naissent à deux années d'intervalle, entre 1863 et 1865. Donc c'est toutes petites entreprises qui sont créées par des personnes dont on connaît le nom et qui se livraient à des travaux assez mineurs, enfin qui avaient trouvé par exemple des colorants synthétiques, ce qui n'était pas rien, mais c'était des toutes petites boîtes. Bayer, BASF, exactement comme DuPont au XIXe siècle, ont fait leur fortune, leur vraie fortune, et ont commencé leur expansion quand elles se sont mises au service de la guerre. Car c'est, à mon avis, le point de départ de cette extraordinaire dérive. En 1914, vous avez un chimiste que je qualifie de génial, car il l'était, Fritz Haber. Oui. Fritz Haber, c'est un Allemand. Il est donc un chimiste génial, mais...
Juste dire quand même qu'il synthétise, il fait la synthèse de l'ammonia grâce à l'azote de l'air et l'hydrogène.
Exactement. Donc c'est une découverte qui date des toutes premières années du XXe siècle. C'est fantastique parce que ça ouvre la voie, il faut le savoir rapidement, ça ouvre la voie aux engrais azotés. Donc ça ouvre la voie à une multiplication.
Avant, on avait les engrais, on les a toujours d'ailleurs organiques. Et puis oui. Le guano en Amérique latine, ce qui n'était pas très simple à récupérer.
Exactement. Et donc, Haber, il réussit cette synthèse et ça ouvre la voie donc à la possibilité de multiplier considérablement. Et ça a été fait. La production alimentaire, la production agricole, grâce à des engrais synthétiques. Donc ça, c'est la face lumineuse, si vous voulez, de Haber. Mais la face atroce de Haber, c'est que c'est un nationaliste. En 1914, il met son savoir qui est immense au service de l'Empire allemand et il lance ce qu'on appellera ensuite la guerre des gaz. Il organise avec un régiment spécial qui s'appelle le régiment Peterson, quelque chose d'inouï. Il libère du chlore sur le front en Belgique, face aux tranchées françaises, le 22 avril 1915. 5000 cylindres remplis de chlore qui se s'épandent sur les tranchées françaises. En quelques minutes, des milliers de personnes meurent dans des souffrances atroces. Et bien entendu, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont handicapés à vie. Donc c'est un événement majeur, fondateur. Et le problème qui, à mon avis, décide de la suite de ces sinistres aventures, c'est que Haber ne paye pas le prix de ce véritable crime de guerre. Au contraire, il recevra le prix Nobel de chimie en 1918, certes, pour la synthèse de l'ammoniac et non pas pour ses crimes de guerre. Mmh. Mais à la suite d'Haber, quantité de scientifiques vont se sentir libérés de toute obligation morale.
Ça c'est votre théorie, parce que je veux dire qu'en même temps, on se doute bien que la chimie... Non, mais c'est intéressant.
Je vous en prie.
Parce qu'en même temps, on se doute bien que les chimistes qui nous écoutent se disent « Mais attendez, on n'est pas des marchands de guerre, nous, aujourd'hui. »
Absolument, mais en aucune manière. Ce que je veux dire, mais pas de malentendu. Bien sûr que les chimistes... De toute façon, moi, j'ai de l'admiration pour la recherche en tant que telle et pour les chimistes... Dès lors qu'ils mettent leur savoir au service de l'humanité, il n'y a aucun problème pour moi. Ce que je veux dire, bien sûr, tous les chimistes ne sont pas des criminels de guerre, Dieu sait, mais historiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'irresponsabilité organisée autour de ce crime pionnier, de ce crime fondateur, explique la suite. C'est-à-dire qu'à la suite de cela, l'industrie étant devenue extrêmement puissante, notamment grâce à la guerre de 1914, tant en Allemagne et en Europe qu'aux États-Unis, eh bien les chimistes se mettent de manière décisive au service d'une industrie qui n'a pas des buts humains. Je veux dire, c'est pas insulter l'industrie que de dire qu'elle a ses propres buts qui consistent à vendre des objets sans se préoccuper, loin du monde, de l'impact que ces objets vont avoir sur la santé humaine. Ces chimistes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-moi de vous le dire,
mais
ils ne savent
pas ce qu'ils font. C'est pas des inconscients, quand même.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils créent des produits qui sont parfois magnifiques. Par exemple, toutes les années 20, les années 30 du siècle passé, aux États-Unis, il y a des chimistes extraordinaire, remarquable à tout point de vue, qui crée toute une série de produits, notamment plastiques. Vous voyez, les polyéthylènes, les polyamides, le nylon, par exemple, vient de là. Donc, il y a quantité de produits qui vont naître de l'ingéniosité des chimistes, mais ces produits, ils sont au service de l'industrie. Et ça change tout. Parce que la question qu'on va certainement aborder un petit peu plus tard,
mais l'industrie peut être aussi au service du bien-être des gens.
Franchement, je le conteste. Je le conteste. Je pense que bien sûr qu'il arrive que l'industrie soit au service des gens. Bah oui. Bien entendu, évidemment. Pensons à l'aspirine, pensons aux antibiotiques, à la pénicilline. Sans chimie, non, pas d'aspirine.
On serait pas là.
Voilà, probablement. Oui. Ou peut-être. Ah oui, vous voulez dire. Mais en tout cas, que la chimie puisse avoir des effets positifs, personne ne le conteste. Ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, ces buts ne sont pas ceux de à mon sens, de l'humanité et de la santé humaine. Le but de toute industrie, c'est de vendre des produits. Et en vendant des produits par milliers et par millions, elle a posé des problèmes qui aujourd'hui sont tout à fait considérables.
Alors, Alors ça, c'est vrai qu'on va y revenir, parce que quand même le cœur de votre sujet, c'est aussi, on va dire, santé et environnement, et puis aussi les fameuses normes. Comment ces normes sont-elles donc élaborées? Pourquoi est-ce que l'on passe au travers? Est-ce que l'on sait vraiment tout? Alors sans tomber dans la théorie du complot, parce que ça, c'est toujours un truc
non,
un peu facile.
Non, il n'y a aucun complot.
Non, j'ai bien compris, et puis votre bouquin est quand même sacrément étayé. Je me tourne vers vous, Stéphane Sarad, parce qu'il nous fallait évidemment un chimiste. Donc je le rappelle, vous êtes directeur de recherche au CEA, chef du département de physico-chimie à la direction donc de l'énergie nucléaire, mais surtout chercheur aux énergies alternatives. Alors vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage tout à fait intéressant aux éditions du Pommier. Alors d'abord, un pour les petits, enfin les petits, c'est mon niveau, c'est 8 ans. La chimie est-elle réellement dangereuse? Et puis, la chimie d'une planète durable. Alors chimie et développement soutenable, l'association n'est-elle pas surprenante, voire paradoxale? C'est ce que vous avez voulu vous un petit peu démonter. Donc quelle est aujourd'hui votre position en tant que chimiste? Parce qu'au début de vos études, on vous disait, il faut se débrouiller pour avoir un rendement de réaction le meilleur possible. Et tout ceci a quand même pas mal évolué.
Oui, tout ceci a beaucoup évolué, effectivement. Et je pense que heureusement, l'histoire de la chimie ne s'est pas arrêtée au triste sire qui était le professeur Haber, et que les chimistes ont quand même évolué et continuent à évoluer. Et moi, dans le livre de monsieur Nicolino, moi, j'ai à la fois beaucoup aimé certains éléments, et bien sûr, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup dérangé.
Bah oui.
Vous en doutez. Bon. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez pris la précaution littéraire, non pas oratoire, mais littéraire, de dire que vous ne mélangiez pas les chimistes et les chercheurs en chimie avec d'autres tristes personnages que vous avez cités dans votre, dans votre document. Effectivement, la chimie est très particulière. C'est la seule discipline scientifique qui porte le même nom que son industrie éponyme. Il n'y a pas d'industrie physique, il n'y a pas d'industrie mathématique. Donc, dès le départ, et je crois que vous l'avez déjà évoqué, Monsieur Chessou, c'est parce que la chimie, nous sommes des machines chimiques. Donc, la chimie a une proximité avec notre quotidien qui est réel, qui date de la création de notre planète. Et donc, il y a cette ambiguïté. Cette ambiguïté, la chimie qui sauve, la chimie qui tue avec les armes chimiques,
avec les gaz sarins,
avec le gaz sarin, mais avec Fritz Haber a malheureusement développé des gaz de combat à base de chlore. Pas très loin d'ici.
Après, on a eu le xylon B qui, au départ, était
tout
un pesticide.
Voilà. Mais qui a été aussi utilisé pour des fins funestes. Mais le chlore aussi a participé à beaucoup de choses. Et pas très loin d'ici, il y a le métro Javel. L'eau de Javel, qui a été développée à partir du chlore, a servi à nettoyer, à épurer, à tuer bon nombre de micro-organismes et rendre des habitats urbains viables et à participer à l'augmentation de la durée de vie de certaines personnes dans les pays. Donc, on ne peut pas ne voir que... Alors, c'est un petit peu ça qui m'a gêné dans une vision de vous donner des vrais éléments. Je pense que c'est le point intéressant de votre travail, qui est un travail de lanceur d'alerte. Et je crois que c'est toujours très important d'avoir ça. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter qu'à la peur. C'est-à-dire que derrière, ce qui est important aussi, c'est de se mettre en perspective. Et l'évolution de la chimie est quelque chose qui est constant, que je vis. Au XXe siècle, on m'a effectivement appris à raisonner sur le rendement de réaction, donc de faire de la chimie.
Je
finis juste sur le fait qu'au XXIe siècle, ce que je fais, ce que je tente d'apprendre à mes étudiants, c'est que la chimie, c'est pas ça. La chimie, c'est quelle matière première je vais utiliser, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle est renouvelable. Quel solvant je vais utiliser?
L'eau, le benzène,
le CO2. Alors si l'eau, c'est pas toxique, mais c'est une denrée qui devient de plus en plus rare.
Oui.
Les solvants organiques, benzène, chloroforme, eux, ils sont pas du tout appréciables en termes d'utilisation. Donc on a d'autres solvants alternatifs, comme le CO2 supercritique par exemple. Quelle énergie je vais utiliser? À quel niveau d'énergie? À quelle pression? À quelle température? Si je peux travailler à pression et température ambiante, ça va aller mieux. Et quels déchets je vais fabriquer? Et surtout, est-ce que je vais pouvoir les recycler? Donc la vision d'un procédé global. Et je dirais qu'on est condamné à aller là-dessus, y compris l'industrie chimique, puisque les matières premières...
Si vous me permettez, non mais je comprends très bien que vous défendiez, c'est tout à fait légitime, vous défendez votre travail, vous défendez votre point de vue, il est légitime. Simplement, moi ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie pas le bilan réel, chiffré, documenté et qui est basé sur des études scientifiques, vous n'allez quand même pas contester, je l'espère du moins, des études scientifiques publiées dans les meilleures revues scientifiques de la planète. Donc ce travail-là, il fallait le faire. À quoi assiste-t-on dans les pays développés, en France, dans les pays développés et de plus en plus d'ailleurs dans les pays du Sud? On assiste à une explosion de nature épidémique d'un grand nombre de maladies qui posent, qui mettent en cause la santé publique en tant que telle. Je prends très vite quelques exemples. Vous avez l'incidence du cancer en France a augmenté de 110% entre 1980 et 2012. Ce sont les chiffres officiels.
Alors on va vous dire qu'effectivement, si on plonge le thermomètre un peu plus profond,
attendez,
vieillissement de la population.
Non, attendez, je vais répondre. C'est très simple. C'est très simple. Je continue. Vous avez l'obésité et le diabète, qui sont des maladies qui flambent littéralement. Nous avons 15% d'obèses en France. Nous attendions 3 500 000 diabétiques en France en 2016. En 2009, ce chiffre était atteint et on va vers les 5 millions de diabétiques. Alzheimer, on pense qu'il y a 1 million de cas d'Alzheimer en France et l'INSEE en attend 2 millions en 2020. Il y a entre 25 et 30% d'allergiques en France et 10% d'asthmatiques chez les enfants. Donc vous avez, et on pourrait même évoquer, mais c'est très polémique, mais c'est très intéressant, on pourrait même évoquer le cas de l'autisme. Passons. Ce qu'on voit, c'est que des études scientifiques de plus en plus nombreuses pointent des liens absolument certains entre exposition à des molécules chimiques toxiques et explosion de ces maladies. Les Américains ont créé, par exemple, des adjectifs qui certainement deviendront célèbres en France, par exemple obésogène et diabétogène.
Ça va être nouveau, parce qu'on va en avoir de plus en plus, on va l'entendre ça, obésogène et diabétogène.
Sûr. Ce sont des mots qui vont devenir communs dans la langue française, tout simplement parce qu'on se rend compte que des produits chimiques ont des effets obésogènes, donc favorisent l'obésité.
Indépendamment du sel et du sucre, hein.
On est bien d'accord. Il s'agit bien de molécules chimiques toxiques, et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui me paraît fondamental, et à quoi vous nous répondez absolument pas, c'est... Avant de parler d'un quelconque avenir, je crois que l'essentiel est de tirer le bilan général de l'exposition des humains à cette explosion invraisemblable de produits chimiques dont le plus souvent nous ne savons rien. Et quand nous savons quelque chose, sur une fraction qui ne doit pas dépasser 1% de la totalité de ces substances chimiques disséminées de manière irresponsable, quand on sait quelque chose sur ces produits, on se rend compte qu'ils ont un effet cancérigène, mutagène, reprotoxique et éventuellement tératogène, c'est-à-dire que ça contribue, hélas, à fabriquer des enfants monstrueux. Alors, commençons par faire le bilan et ne nous abritons pas derrière l'intérêt bien réel, que je ne conteste pas, de la chimie.
Alors, on va vous dire aussi, pardonnez-moi, effectivement, que ça va être multifactoriel, ça c'est un grand classique.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Non, mais j'aimerais répondre quand même à ça, puisque vous avez parlé d'éléments scientifiques et techniques.
Absolument.
Vous avez cité un lien. Mais en fait, en science, ce qui est important, c'est la causalité. Les éléments et les pathologies que vous avez évoquées, ce sont, on le sait, des pathologies multifactorielles. Sur l'antenne de France Inter, il y a 2 jours, un chercheur expliquait que les benzodiazépines seraient peut-être responsables de... Et donc la consommation d'antidépresseurs serait responsable de l'augmentation de la maladie d'Alzheimer. Donc multifacteur, ça veut dire de la chimie, mais des gens qui consomment de la chimie pour des raisons de mode de vie. L'obésité, je pense que la consommation en sucre et en graisse participe aussi activement à l'obésité.
Mais qui dit le contraire ?
Non, mais
pas moi, en
si ce que vous êtes en train de dire vous, c'est que vous jetez, on va dire, le focus de ces maladies à la
mais
vision
vous
de la chimie.
Vous ne contestez pas vous-même puisque vous dites que c'est multifactoriel.
C'est multifactoriel. C'est donc ça veut dire que la solution est multifactorielle. C'est-à-dire que crier haro sur la chimie en disant c'est la cause de tous les maux de la planète, moi pour moi ça me paraît
pas. C'est pas exactement
mais
ça.
Mais qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je dis ça ? Absolument pas du tout. Je dis qu'il y a irresponsabilité organisée d'une industrie qui est devenue incontrôlable et qui disperse, qui dissémine dans tous les milieux de la vie. Parce que c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on boit, c'est tripoter des jouets quand on est un enfant. C'est vivre, tout simplement.
Mais bien sûr.
Vivre, l'air intérieur. On en parlera peut-être tout à l'heure.
On est tout à fait d'accord avec ça. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est parce qu'on a fait ce constat-là, c'est parce que ce que vous avez évoqué est la réalité, que la chimie a déjà évolué.
Mais
bien sûr que si.
Avec les nanotechnologies, vous pensez vous parler
aller dans les industries chimiques, aller dans les laboratoires.
Ça, on dira tout à l'heure sur les nanotechnologies. Ce qu'il y a aussi, c'est que, alors, on pourra parler peut-être du programme REACH que vous critiquez aussi, parce que là-dessus, il a fallu quand même trouver aussi des normes différentes et le problème des normes. Ce que je vous propose peut-être d'écouter, c'est de nous projeter, mais ça, c'est pas long, mais vous allez voir, une petite virgule merveilleuse signée Christophe Imbert, mon réalisateur. Nous sommes en 1956.
Paul Sarès questionne aujourd'hui Monsieur le professeur Terouanne.
Que pensez-vous, par exemple, monsieur le professeur, de la génétique qui a réussi à transformer certaines variétés de cultures pour en augmenter la production ?
Je ne crains pas de dire que les critiques dans ce domaine ne reposent absolument sur rien. Mon collègue, le professeur Genevoix de l'Université de Bordeaux, écrivait récemment La biochimie moderne a donc permis de créer des tomates, des carottes et des maïs considérablement meilleurs que les variétés existantes il y a 20 ans seulement.
Mais que pensez-vous alors de l'utilisation des engrais chimiques ?
Même observation que précédemment. Même critique à l'égard des engrais chimiques, même absence de toute justification de ces critiques. Tout récemment, un physiologiste allemand, le docteur Schupan, a pu déclarer que dans ses études directes faites sur l'alimentation des enfants, les légumes obtenus sur des terrains fertilisés par des engrais chimiques ont donné de meilleurs résultats que ceux cultivés avec des engrais naturels.
Ce qui est bien, c'est le troisième bras qui pousse sur l'estomac. Je peux me gratter les mamelles sans avoir à bouger les ailes. Ma femme hier matin m'a dit, mon gros martien, nous pouvons être heureux, je crois bien que je vais pondre des œufs. Tout ça, pourquoi ? Parce que y a Dieu sans deux, y a Dieu sans trois dans le cœur des enfants. Y a Dieu sans deux, y a Dieu sans trois que la forêt qui voit.
Denis Chessou sur France Inter.
Oui, qui a pas mal de boulot avec donc Fabrice Nicolino d'un côté et Stéphane Sarad de l'autre. Et donc, sur France Inter, CO2 Mon Amour, la chimie. Bah, nous sommes tous, on l'a dit, objets nous-mêmes de la chimie. On en profite, on en consomme. Ça a rendu quand même l'homme aussi à la fois chargé de plein de molécules. Et ça, il y a vraiment de vraies inquiétudes là-dessus, sur le côté santé-environnement, qui est quand même au cœur aussi de cet ouvrage, Fabrice Nicolino. On ne nie pas une seconde les bienfaits de la chimie, loin de là. Et donc, c'est vrai que c'est un bouquin qui est quand même un peu à charge de ce côté-là.
Mais attends, à charge. Je coupe, excusez-moi.
Je vous en prie.
Qu'il est à charge. Bien sûr, puisque la situation est terrible. Mais c'est pas moi qui invente la situation. Et vous avez eu la gentillesse d'approuver une partie de ce que je disais. Si vous voulez, la situation est extraordinairement grave. Aussi pour la raison que la science, votre science, excusez-moi, est absolument impuissante, par exemple, à connaître l'effet de cocktail, ce qu'on appelle l'effet synergique, de molécules qui sont mises les unes avec les autres. On les analyse une par une, on en analyse peut-être quelques milliers, une toute petite poignée. Or, on parle bien de dizaines de millions, donc c'est une échelle totalement différente qui n'a strictement rien à voir. Fondamentalement, on fonce dans le brouillard sans savoir aucunement ce qui va se passer. Mais ce qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis en un mot, ce qui se passe, c'est quand même une catastrophe sanitaire avec une espérance de vie sans incapacité, parce que c'est un indice dont on parle peu, mais alors, qui est fondamental.
C'est espérance de vie sans incapacité.
C'est fondamental, important. Denis, parce que on parle toujours de l'espérance de vie dans l'absolu. Alors, cette espérance de vie dans l'absolu, elle stagne en France. Elle stagne. Peut-être qu'elle va continuer à augmenter, ou peut-être qu'elle va commencer à diminuer, mais elle stagne. Elle ne veut pas dire grand-chose, parce que ceux qui meurent aujourd'hui, par définition, ce sont des gens qui sont vieux et qui n'ont pas été exposés à cette contamination chimique généralisée.
Non, c'est pas vrai. Ils ont été exposés.
Non,
ils ont été exposés. Ils ont été exposés.
Excusez-moi de
vous
dire.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, ont été exposés.
Non, mais je crois que vous ne connaissez pas l'histoire de la chimie, je vais vous apprendre quelque chose. Eh oui.
Écoutez, vous allez m'apprendre des choses. Je suis un chercheur, j'adore apprendre.
C'est mon métier. Pas forcément l'histoire.
Mais bien sûr
que
non, bien sûr que non.
Je vous le dis, la production de produits chimiques au plan mondial, c'est 1 million de tonnes en 1930 et c'est près de 500 millions aujourd'hui. Donc la production a été multipliée par 500. Autrement dit, ceux qui ont 90 ou 95 ans aujourd'hui n'ont pas été exposés dans leur prime jeunesse au moment où leur système neurologique central se formait, par exemple, au moment où leur système endocrinien apparaissait, ils n'ont pas été exposés à cette pollution chimique généralisée. Donc là, je parle de l'expérience de vie dans l'absolu.
Eh oui, maintenant, il y a un autre indice. Ces personnes-là ont été exposées à du DDT, à d'autres molécules qui sont maintenant interdites.
Mais à un moment qui n'est pas du tout aussi décisif que la vie intra-utérine et les toutes premières années de la vie. Ça, aujourd'hui, on le sait de manière scientifique. Donc, ils n'ont pas été exposés de la même manière. Mais reste que l'indice que l'Union européenne met en avant, à mon avis, à juste titre, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Parce que vous imaginez bien que vivre jusqu'à 100 ans...
Oui, si on est un légume,
si vous ne pouvez plus bouger ou si c'est une maladie chronique, c'est peut-être moins intéressant.
Là, on est d'accord, mais la chimie n'est pas responsable de ça.
Si.
Votre rôle, c'est de dire que la chimie est responsable de tout ça.
Laissez-moi juste finir. L'espérance de vie sans incapacité diminue en France depuis 2006. De nombreux scientifiques le disent et le répètent sans qu'on les écoute. Je pense à Christophe de Geiger, qui est un gériatre, un médecin, un des grands spécialistes du vieillissement en France, qui le dit sans qu'on l'écoute. Mmh. Donc cette espérance de vie sans incapacité diminue sur fond d'aggravation, de détérioration de la santé humaine. en relation, comme je le montre sur la base d'études scientifiques, en relation avec l'exposition à la pollution.
Juste dire parce que ça,
avec la modification de notre mode de vie, avec la modification du monde qui nous entoure, qui fait que il y a des raisons multifactorielles à ce que vous évoquez.
Donc la pollution chimique en fait partie.
Mais bien sûr, elle en fait partie. Et si les chimistes travaillent à l'heure actuelle, ce que je n'aime pas, c'est la suspicion que vous jetez sur les chercheurs en tant que les chimistes qui sont forcément à la solde de l'industrie chimique.
J'assume mon point de vue sans aucun.
Mais moi, j'assume le mien qui est de dire que les chimistes ne sont pas vendus à l'industrie chimique.
Je dis qu'ils travaillent le plus souvent pour une industrie qui est irresponsable. Voilà ce que je dis.
Pas d'accord avec vous. On pourra parler, si vous le permettez, tout à l'heure, effectivement, de certaines collusions, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas forcément ce que dit Fabrice Ingolino dans son ouvrage. C'est pas forcément du tout loin de là tous les chimistes. Après, au niveau européen, au niveau français, d'autres pays, là, on va pouvoir effectivement ouvrir ce dossier. Juste des faits, c'est-à-dire que les enfants, juste dire que qui sont nés entre 1965 et 1985, ont été confrontés aux polluants organiques persistants, à la chimisation de l'agriculture, et eux ont vécu. On assiste au versement des pires molécules, on va dire depuis le début des années 60 jusqu'au milieu des années 80, des pires molécules sur Terre. Voilà,
on est d'accord sur ça.
Alors peut-être un petit mot avec vous, Frédéric Danhué, qui intervenait merveilleusement et régulièrement dans cette émission, Frédéric, parce que vous avez aussi écrit Les nouvelles pollutions invisibles. Ça s'appelle aussi Ces poisons qui nous entourent, aux éditions Delachaux et Niestlé. Ça, vous l'aviez écrit donc il y a quelques années. Juste, alors peut-être un élément aussi peut-être différent pour alimenter ce débat, Frédéric.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, l'industrie chimique, elle n'est que ce qu'on en fait. Elle n'est pas là pour par philanthropie, elle est là pour gagner de l'argent, comme n'importe quelle autre industrie, point final. Donc si les produits chimiques, effectivement, l'industrie chimique a fabriqué les pires polluants qu'on ait jamais inventés, les polluants organiques persistants, les pesticides organochlorés, qui ont été diffusés largement entre les années 50 et la fin des années 70. Donc effectivement, l'espérance de vie qui monte en France, c'est l'espérance de vie des gens qui sont nés avant la chimisation de la société. Et cette espérance de vie, à mon avis, va baisser pour la génération, la mienne, née en plein boom chimique entre les années 60 et les années 80. Et je pense, et là, moi, c'est ce que j'avais vu en écrivant ce livre qui était la deuxième édition d'un précédent, il y a une réglementation qui s'est quand même considérablement durcie. On ne diffuse plus dans la nature les mêmes produits extrêmement rémanents, extrêmement toxiques, comme l'atrazine, comme le lindane, comme le DDT. Ce qui fait que je pense que les enfants nés à partir du milieu des années 80 ont sans doute été confrontés à beaucoup moins de polluants, sauf qu'aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à une pollution d'une toute autre nature, à une pollution diffuse. D'ailleurs, Fabrice le dit dans son livre, et je suis content qu'il le dise, parce qu'on n'est pas nombreux à le dire, à une exposition majeure à des polluants qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à connaître, dans le milieu intérieur, c'est-à-dire à la maison. L'industrie chimique, voilà, c'est le grand vilain, c'est le grand méchant loup, mais là où on est exposé le plus, c'est là où notre mode de vie est le plus contradictoire avec cette peur instinctive de la chimie, c'est chez nous. C'est les solvants, c'est les bougies parfumées, c'est les bâtons d'encens. Dans des maisons, on n'ouvre plus les fenêtres, et quand on regarde bien les taux de polluants de composés organiques volatiles, ceux qui sont justement ciblés par le programme REACH, vous en parlerez après, c'est bien dans les maisons qu'on les trouve, en particulier les maisons avec des meubles laqués, avec des meubles pour enfants, avec des moquettes,
alors,
etc.
En plus, avec l'hystérie, on va dire, énergétique et climatique, on ferme
plus les fenêtres. On ouvre plus les fenêtres. Une étude de l'INVS, l'Institut National de Veille en Santé, qui a été publiée il y a 2 ans, montre qu'un Français, il n'y a pas un Français, en hiver. Or, c'est en hiver où parce que l'air est plus humide, parce que l'air est plus chaud, c'est en hiver où l'air est le plus concentré en polluants divers et variés.
Et alors, je ne vous raconte pas non plus les bâtons d'encens, des parfums artificiels, c'est un véritable bonheur. Voilà, on est bien d'accord.
Ah, complètement, c'est une vraie cause de pollution.
Voilà, juste un tout petit bémol. Merci Frédéric. Je crois fondamentalement d'accord. Simplement, moi, je ne crois pas que les choses soient améliorées après 1985. J'aimerais le croire, je ne crois pas. voyez l'exemple des perturbateurs endocriniens, c'est une notion nouvelle qui a émergé en 1991, donc c'est bien après. Jusqu'à cette date-là, on ne savait pas que des produits chimiques avaient un rôle de perturbateur endocrinien. Ce sont des produits finalement qui imitent à la perfection les hormones naturelles, qui pénètrent dans le corps des humains et qui désorganisent en profondeur le système endocrinien. Et surtout chez les enfants d'ailleurs, avec des conséquences tout à fait dramatiques. Ces produits-là, ils sont actuellement en vente. Vous par exemple, du triclosan dont personne ne parle en France, vous l'avez dans des centaines de produits d'usage courant, vous l'avez dans du dentifrice et personne ne s'en préoccupe. C'est un perturbateur endocrinien reconnu par les scientifiques. Et surtout, ce que je veux dire, parce que moi, au fond, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, je vous le dis très clairement et sans détour, c'est une étude parue en 2003. Ce jour-là, je suis tombé de ma chaise. C'est une étude de sang, une analyse de sang menée aux États-Unis. On avait réuni des volontaires dans 9 États américains et en testant leur sang, on s'est rendu compte d'une chose incroyable, c'est que tous avaient dans leur sang des dizaines, parfois plus que 150 molécules toxiques, chimiques diverses. On a refait l'opération plus tard avec les enfants, les nouveau-nés. On a même été analyser le sang du cordon ombilical du nouveau-né et on trouve grosso modo les mêmes résultats. On l'a fait avec les ministres de l'Environnement européen. Serge Le Pelletier, en 2004, qui était ministre de l'Environnement français, il a accepté de tester son sang. Le malheureux, comme nous tous du reste, était chargé de toxiques. Et il avait fait une déclaration sensationnelle. Je ne me souviens plus au mot près, mais il avait dit, bien sûr, il serait temps de commencer à comprendre pour quelles raisons les maladies flambent de cette manière-là. Et il reliait spontanément et naturellement, bien sûr, cette explosion de maladies et le fait que le sang des humains sur cette terre est contaminé, et que ce soit en France, mais que ce soit en Afrique, que ce soit même en Australie, que ce soit aux États-Unis ou dans le bassin d'Amazonie, le sang des humains est désormais contaminé par des molécules
Frédéric
toxiques.
Dans et là, on ouvre une boîte de Pandore avec tout cela. Après, on parlera. J'aurais vraiment qu'on ait quand même quelques instants à la fois pour évoquer Rich et puis aussi donc la fameuse des JA, la dose de journalière admissible. Sur le cocktail, que souhaitez-vous dire sur ces cocktails de molécules? Frédéric.
Je pense qu'effectivement, on n'analyse pas les cocktails. Ça paraît stupide, mais je pense que c'est un vœu pieux parce que chaque individu a son propre cocktail. Donc si on voulait analyser les cocktails, il faudrait faire une médecine individuelle et on ne pourrait jamais arriver à établir une norme. Une norme, c'est toujours un compromis par rapport à une prise de risque que la société a envie de prendre, par rapport aussi à la pression des lobbies. Donc je pense que c'est un débat intéressant, mais c'est un faux débat. Chaque individu a son propre cocktail chimique. Par contre, ce qu'on voit arriver, c'est une analyse non plus des polluants dans le corps, c'est une analyse de la réponse du génome, c'est ce qu'on appelle ça une analyse génomique, de la réponse du génome à un stress extérieur. Et là, on commence à avoir des méthodes qui permettent de dire si tel ou tel individu a été confronté peut-être à tel ou tel polluant. Et alors, c'est très long, très compliqué.
Je vous propose une petite musique et puis on continue jusqu'au bout. Donc toujours en direct sur France Inter, CO2 Mon Amour. Allez, vive la chimie. C'était en 1984, il n'y avait pas de portable, mais il y avait déjà le téléphone, la preuve. Donc c'était un autre monde. Nous poursuivons donc ce voyage au pays de la chimie pour parler sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, avec nos deux invités, Stéphane Sarade, qui représente, on va dire très simplement, la chimie, avec Fabrice Nicolino, qui représente le coup de pied dans la chimie. Nous allons donc parler de ce programme REACH qui a eu lieu depuis, enfin qui est sorti depuis quelques années. Ça veut dire enregistrement, évaluation et autorisation des projets chimiques. Et on va dire que la grande nouveauté sur le papier, c'est que c'est une révolution parce que la charge de la preuve de l'innocuité des produits chimiques est inversée. C'est donc aux industriels de montrer l'affaire. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que moi, je rencontre une chose, c'est que depuis, on a vu qu'il y avait des boîtes de peinture qui maintenant donc avaient, où on avait beaucoup moins de, je sais pas, de composés organiques volatiles. Il y avait, on voit quand même qu'il y a eu des petites progressions hein, qui ont existé. Donc alors
je vais jouer mon rôle jusqu'au bout, mais si vous voulez, REACH a été détourné de son sens. Au point de départ, je veux bien admettre que des gens de bonne volonté ont cru par ce programme de contrôle améliorer un petit peu la situation, je veux bien le croire. Mais on ne comprend rien à cette affaire si on oublie que les décisions de toutes les agences de sécurité publique en Europe, ces décisions sont biaisées, car il existe, et ça c'est documenté, j'écris des faits, et des noms, et je cite des noms dans ce livre.
Ah oui, vraiment.
Les décisions sont biaisées car elles sont prises en fait à l'initiative de lobbies industriels. Des responsables des agences de santé qui sont censés nous protéger passent tantôt de l'industrie chimique à l'administration européenne, puis retour à l'industrie chimique, puis retour à l'administration européenne. Et en fait, REACH s'est dégonflé.
Alors ça, c'est pas forcément les chimistes directement, on est bien d'accord. C'est pas un Stéphane Sarral.
Non, mais bien sûr que non. Je parle.
Non, mais ça, je peux assumer beaucoup de choses. Oui,
vous
pouvez
vous avez les épaules larges. Je suis venu pour assumer beaucoup de choses. Qui est organisé pour la défense de ses intérêts. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un ballon de baudruche. REACH, de toute façon, actuellement, porte sur 30 000 produits qu'il s'agit d'enregistrer. 30 000 produits, c'est une fraction infime. Je rappelle l'ordre de grandeur. Je parle bien, et il est certain qu'il existe des dizaines de millions, probablement aujourd'hui 90 millions de substances chimiques différentes les unes des autres, enregistrées dans un numéro unique, qui est le numéro CAS. Ça parlera aux spécialistes, malheureusement pas au grand public. Donc on parle de dizaines de millions de molécules, et REACH porte sur une fraction infime, 30 000 produits. Et même ça, pour des raisons que je ne peux pas développer parce qu'elle nous prendrait trop de temps, même ça, je suis prêt à parier et je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'on n'y arrivera pas. REACH, pour moi, est une... Pardonnez-moi le mot, mais j'y tiens. Pour moi, c'est une foutaise. Ça va permettre à l'industrie chimique de prétendre qu'elle agit pour le bien commun alors qu'elle ne le fait pas. Donc, c'est une manière de détourner l'attention et de faire croire que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui.
Alors, ce qui nous intéresse...
Okay, je peux peut-être intervenir sur REACH parce que là, on est revenu dans la théorie du complot.
Pas du tout. Pas du tout.
Il faut revenir à REACH. Non, je vous ai laissé parler. Vous m'avez fait de la leçon sur de la chimie. Je vais moi vous faire une petite leçon sur l'industrie chimique et sur REACH. REACH a un intérêt majeur. D'abord, c'est la procédure. Dans toute l'histoire de la communauté européenne, c'est la procédure qui a été la plus discutée, la plus amendée et la plus âprement défendue. Ça veut dire qu'on était vraiment au cœur de l'industrie chimique, des opposants. Donc déjà historiquement, c'est un point important. Ça a existé et il y a eu cette chose-là. Vous avez entièrement raison sur la quantité très importante de molécules auxquelles nous sommes confrontés, exposés, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je pars du principe très pragmatique. Si déjà on est en capacité d'évaluer 30 000, parce qu'on n'est pas, il faut pas laisser croire à nos auditeurs qu'on est en permanence de la même manière exposé à des millions de molécules à la fois. On est exposé à certaines molécules.
Tous les jours.
Donc là, on parle de 30 000. REACH, c'est 30 000. Donc déjà, on s'attaque à un volume d'exposition qui est raisonnable par rapport à l'exposition réelle des êtres humains. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que ce qui est important aussi dans REACH, vous avez parlé de la chimie, c'est aussi la traçabilité. Ce qui était très important dans la procédure REACH, c'est de dire que ce n'est pas forcément la personne qui va vendre la boîte de peinture qui sera responsable s'il s'avère que cette boîte de peinture est toxique. C'est la capacité à revenir à tous les fournisseurs de matières premières et de les impliquer dans une responsabilité globale. Et c'est ça aussi qui a changé. Alors moi maintenant, je vais vous dire que je suis chimiste et je suis en lien avec l'industrie chimique. L'industrie chimique, c'est pas forcément les grands groupes que vous avez évoqués. Vous avez parlé de BASF, vous avez parlé de DuPont. Il y a aussi un très grand nombre de PME et de PMI, des entreprises françaises de taille intermédiaire, qui travaillent dans la chimie. Et je peux vous dire que eux, Rich, ils y sont confrontés puisqu'ils me sollicitent pour justement qu'on réfléchisse ensemble à ne plus utiliser, vous savez, les fameuses molécules dites préoccupantes. Donc peut-être pour vous c'est une foutaise, moi ma réalité, c'est que les normes, celle-ci en particulier, elle est peut-être pas au niveau où on aurait tous espéré qu'elle soit à l'heure actuelle, mais je peux pas laisser dire que c'est une foutaise. Parce que moi je vis le fait que les gens nous contactent, les industriels nous contactent, de bonne foi. Parce que quelqu'un qui fait de l'industrie chimique dans la cosmétique, dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, n'est pas forcément quelqu'un qui a envie d'empoisonner ses clients. Vous dites pas ça, mais vous le laissez supposer en disant qu'il y a des molécules qui sont mises sur le marché sans aucun discernement.
C'est pas vrai. Vous reconnaissez qu'il y en a des millions, 10 millions disponibles.
Oui.
Et donc, c'est évident que l'analyse de ces
molécules. Mais on n'est pas exposé aux millions quand même.
On n'est pas exposé aux millions. Mais moi, je vous dis qu'à l'heure actuelle, des gens travaillent dans les laboratoires et dans l'industrie pour justement trouver d'autres molécules. Bon. C'est ça que je reproche dans votre bouquin. C'est de baser sur la peur et de ne pas laisser l'espoir derrière.
Juste un mot, ça va être très rapide. L'Union des industries chimiques en France, ça représente, les entreprises, le patronat de la chimie en France, Union des industries chimiques. Eh bien, cette union, on trouve à la tête de l'Union des industries chimiques les mêmes, exactement les mêmes, les patrons par exemple en France de Bayer et de BASF, on trouve les mêmes que dans la Société chimique de France, et qui est censée être la société savante, la société à laquelle vous appartenez peut-être, du reste.
Non, je n'en sais rien. Non, mais c'est pas un problème. La causalité, elle est où là?
Il y a une fusion entre scientifique et industriel. Absolument fusion.
Mais attendez, une fusion entre scientifique et industriel, oui, de toute façon, mais forcément. De fait. Nous, on fait, mais de fait, mais pas que pour la chimie. Les gens qui fabriquent des téléphones portables, vous croyez pas qu'ils ont été en lien avec des physiciens qui ont développé. Ben oui, non, mais c'est cette liaison entre la chimie, entre les chimistes scientifiques et les industriels, elle est suspecte. Elle ne l'est pas, selon vous, pour d'autres disciplines scientifiques.
Alors, écoutez, ce qui m'embête, c'est qu'il y a vraiment un sujet qui me trouve extrêmement important, c'est qui fixe les normes, la fameuse l'alpha et l'oméga de la santé publique, qui est donc la dose journalière admissible. Frédéric Danhé, est-ce que vous pouvez me resserrer ça, s'il vous plaît, sur ce thème, enfin, donc sur qui fixe les normes aujourd'hui, parce qu'on se rend bien compte que... Alors c'est là que le bouquin est aussi très intéressant. C'est effectivement c'est les liens entre l'Agence européenne de la santé, c'est ce qui se passe aussi en France. Voilà, donc là on est plus dans de la soupe, on va dire, politique. Et là, on voit bien que les choses ne sont pas exactement transparentes, même s'ils s'en défendent de ces différents organismes. Mais qu'est-ce que l'on peut dire en ce qui concerne l'élaboration de ces normes?
Ça, c'est la question piège. Merci, Denis. C'est difficile en quelques secondes. Ouais. Mais la DGI a toutes les normes. Encore une fois, c'est une discussion. C'est un compromis sur un niveau de risque acceptable par la société. C'est un compromis qui est établi à partir d'expériences de laboratoire qui fixent le danger, c'est-à-dire la dose à partir de laquelle tel ou tel animal montre un désordre physiologique. Et à partir de là, on a un facteur. On applique un facteur, une division, si vous voulez, par 10, par 100, par 1000, qui est censé protéger l'homme. Ce facteur, il est choisi en fonction du risque qu'on a envie de prendre. Il est pris, ce facteur, en fonction des liens qui est entre physiologiques et entre l'animal de laboratoire et l'homme, et puis en fonction de la dangerosité pour la société de la maladie.
Mais
de la
on s'est rendu compte, on ne peut pas en vouloir à Paracels parce qu'il doit nous écouter, mais enfin, il y avait quand même quelques 5 siècles de retard.
La dose ne fait pas forcément le poison.
Voilà, la dose ne fait pas forcément le poison, c'est ça aujourd'hui.
C'est tout le problème, et là-dessus, on en revient quasiment à la théorie de l'homéopathie. On ne sait absolument pas prévoir, on ne peut rien dire sur l'effet à long terme d'un polluant chimique, d'une onde ou d'un surcroît de sel, de sucre ou de gras. On ne sait pas.
Merci Frédéric. Un petit mot de
Paracels, ça c'est fantastique parce que c'est le père de la toxicologie de Paracels. Et on a cru avec lui pendant 4 siècles et plus que la dose faisait le poison. C'est-à-dire que plus on était exposé à quelque chose et plus on pouvait en souffrir. Mais il y a une révolution conceptuelle en cours chez les chimistes.
Oui, on se rend compte
qu'il existe des effets, ce qu'on appelle des effets non monotones, figurez-vous. C'est-à-dire que des produits peuvent être plus actifs et plus dangereux à des doses plus faibles qu'à des doses plus importantes. Ça, c'est une révolution presque copernicienne qui, à mon avis, met à bas en particulier cette dose journalière admissible qui, par ailleurs, est très, très contestable sur la manière dont elle a été pensée. Mais en tout cas, c'est sûr que ça change totalement la
faible dose, un produit chimique peut devenir même un médicament. Donc il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr,
mais d'accord. Donc ça veut dire que l'effet n'est pas forcément négatif.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Bon, il y a d'autres sujets qu'on peut... On peut pas, parce que là on arrive tranquillement, il faut faire notre créneau. Donc Fabrice Nicolino, Un empoisonnement universel, c'est aux éditions des Liens qui libèrent les nouvelles pollutions invisibles de La Chaux et Niestlé chez Frédéric Danhé. Signé Stéphane Sarade aux éditions du Pommier, La chimie d'une planète durable, ainsi que la chimie est-elle réellement dangereuse? Ça, c'est dans Les petites pommes du savoir. Merci à Stéphane Combe, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. Je vous retrouve, alors la semaine prochaine ça va être complètement différent, on va aller sur la petite ceinture, on va retrouver Jean-Marie Pelt. Vendredi prochain vous aurez un petit bol de nature à 6h25, l'actu du Montilou demain à 19h54, rediffusion cette nuit de CO2 entre 4h et 5h du matin. Je vous souhaite un excellent week-end et dans quelques instants ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Queyrade.